Monde aujourd'hui. Jean-Roger Lyon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 5 avril 2024. Le Rwanda commémore dimanche le 30e anniversaire du génocide de 1994. Au Niger, le régime militaire dissout les conseils des collectivités territoriales. Ici aux États-Unis, les candidats à la présidentielle de novembre s'efforcent de gagner le soutien des électeurs noirs.
M. Trump a déclaré à ses partisans que ses multiples inculpations pénales l'ont aidé à attirer les électeurs noirs.
La plupart des personnes qui suivent les élections diraient que sans Milwaukee, Biden perd facilement le Wisconsin.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Le président Joe Biden visite aujourd'hui à Baltimore le site de l'effondrement d'un pont qui a fait 6 morts présumés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle Israël à respecter réellement et rapidement ses promesses au sujet de l'aide à Gaza. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président rwandais Paul Kagame et la première dame Jeannette Kagame ont allumé aujourd'hui la flamme de l'espoir du génocide rwandais, connu sous le nom de Kwibuka, qui veut dire souvenir, alors que le pays commémore le 30e anniversaire du génocide de 1994. Davantage avec Alexandrine Olognon.
Cette cérémonie, en présence de dirigeants et officiels étrangers, marque le début d'une semaine d'hommage qui verra le pays tourner au ralenti. La musique ne sera pas autorisée dans les lieux publics ni à la radio. Événements sportifs et films seront interdits de diffusion à la télévision, sauf s'ils sont liés aux commémorations. Les célébrations officielles débuteront le 7 avril, jour des premières tueries de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle, faisant 800 000 morts, majoritairement dans la minorité Tutsi, mais aussi des Hutus modérés. 30 ans après les faits, de nouvelles fosses communes sont encore découvertes au Rwanda. Hier, plusieurs associations des droits de l'homme ont dénoncé l'impunité de militaires et politiques français à l'époque des massacres. Le président français Emmanuel Macron affirme que la France et ses alliés auraient pu arrêter le génocide, mais qu'ils n'ont pas eu la volonté de le faire. Emmanuel Macron s'exprimera en vidéo dimanche, à l'occasion du début des 30e commémorations.
L'ex-premier ministre du Sénégal, Mohamed Boune Abdallah Dion, est décédé aujourd'hui à l'âge de 64 ans à Paris, où il était arrivé pour se faire soigner en pleine campagne présidentielle. M. Dion avait été le premier ministre du président Sall, Macky Sall, de 2014 à 2019, date à laquelle le chef de l'État avait supprimé ce poste avant de le rétablir en 2022 et de le confier à Amadou Ba. Toujours au Sénégal, la desserte maritime entre Dakar et Ziguinchor, principale ville de Casamance dans le sud du pays, va reprendre mardi après 10 mois d'arrêt liés à des tensions politiques, a annoncé la société privée chargée de l'exploitation. Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, a été nommé mardi premier ministre par le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le chef du régime militaire au pouvoir au Niger a dissous jeudi, par ordonnance, les conseils des collectivités territoriales élues. Fin 2020, et la capitale Niamey sera dirigée par un militaire, ont annoncé la télévision et la radio publique. Dili Diko.
Selon les termes de l'ordonnance, les conseils municipaux, les conseils des villes et les conseils régionaux sont dissous, a précisé la télévision. Les conseils municipaux dirigent des communes parfois regroupées au sein d'une plus grande ville. Aucune explication à cette dissolution n'a été donnée. Par un autre décret, le général Tiani a nommé des personnes chargées de diriger les collectivités. Des militaires, des officiers de la police et des civils, selon la liste officielle. La capitale Niamey sera désormais dirigée par un colonel de l'armée en remplacement du maire Oumarou Dogari. Le Niger, confronté depuis des années à des attaques djihadistes meurtrières dans l'ouest et le sud-est du pays, est dirigé par un régime militaire depuis le renversement du président élu Mohamed Bazoum en juillet 2023.
Le programme alimentaire mondial s'est alarmé aujourd'hui d'une aggravation de la crise alimentaire au Soudan, en guerre, en dépit de l'acheminement pour la première fois depuis plusieurs semaines d'une aide d'urgence au Darfour. L'envoi de cette aide fait suite à de longues tractations de l'agence onusienne pour ouvrir les couloirs humanitaires depuis le Tchad, après leur fermeture en février sur décision des autorités loyales à l'armée soudanaise. Les régions somaliennes du Puntland et du Somaliland ont refusé aujourd'hui la fermeture des consulats éthiopiens sur leur sol, ordonnée la veille par le gouvernement fédéral qui accuse Addis Abeba d'interférer dans ses affaires intérieures. La Somalie a ordonné jeudi le départ dans les 72 heures de l'ambassadeur d'Éthiopie et rappelé son propre ambassadeur à Addis Abeba pour consultation. Mogadiscio a également annoncé la fermeture d'ici une semaine des consulats éthiopiens dans les régions septentrionales du Puntland et du Somaliland. En Tunisie, Christian Konkang, ex-président d'une association d'étudiants africains subsahariens, détenu le 19 mars, a été libéré, a annoncé l'association ce vendredi. L'étudiant camerounais était détenu depuis le 19 mars, date à laquelle il s'est rendu dans un poste de police pour récupérer sa carte de séjour. Christian Konkang a retrouvé la liberté depuis le 29 mars, son association disant avoir attendu quelques jours pour communiquer sur sa libération, le temps de s'assurer qu'il n'était plus soumis à une surveillance policière.
VOA, vous êtes les coups du monde aujourd'hui.
Cité américaine, la ville de New York a été secouée ce vendredi par un petit tremblement de terre d'une magnitude de 4,8 dont l'épicentre se situe dans l'état du New Jersey. Selon l'Institut géologique des États-Unis à Brooklyn, des immeubles ont donc tremblé, faisant s'entrechoquer des postes de placard et des luminaires. Au siège des Nations Unies à New York, une réunion du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza a été temporairement interrompue après la secousse. L'emblématique Empire State Building a publié un message sur son compte X, I am fine, qui veut dire je vais bien en anglais. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé dans un premier temps. Et le président Joe Biden est arrivé cet après-midi à Baltimore où des équipes travaillent à l'enlèvement des débris du cargo qui a percuté le pont Francis Scott Key la semaine dernière. Au cours de cette visite, M. Biden devrait mettre l'accent sur le fonds fédéral d'aide d'urgence de 60 millions de dollars qui a été approuvé pour faire face aux coûts initiaux de l'accident. Il a rencontré également des responsables locaux et nationaux ainsi que les familles des 6 personnes décédées. Le président Biden tient en ce moment une conférence de presse, ultime étape de sa visite sur les lieux de la catastrophe à Baltimore. Des mesures éparpillées ne seraient pas suffisantes pour améliorer l'aide humanitaire à Gaza au bord du précipice. C'est la plaidoirie du secrétaire général de l'ONU après les promesses israéliennes d'autoriser temporairement la livraison d'aide par de nouveaux points de passage. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Il n'est pas suffisant d'avoir des mesures éparpillées. Nous avons besoin d'un changement de paradigme. Nous verrons ce qui se passe, a déclaré Antonio Guterres. Israël a annoncé autoriser la livraison temporaire d'aide dans la bande de Gaza, assiégée et menacée de famine au lendemain d'une mise en garde de son grand partenaire américain. La mort lundi dans des frappes israéliennes de 7 travailleurs de l'ONG World Central Kitchen a accru le mécontentement international. Nous sommes au bord d'une famine de masse, d'une conflagration régionale, d'une perte totale de confiance dans les normes internationales, a insisté Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU dit être profondément perturbé par des informations faisant état de l'utilisation par Israël de l'intelligence artificielle pour identifier des cibles à Gaza, refusant que les décisions de vie ou de mort soient déléguées à des algorithmes. Une enquête publiée par les médias 972 Magazine et Local Call décrit l'existence d'un programme de l'armée israélienne baptisé Lavender qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier des cibles à Gaza avec une certaine marge d'erreur.
Le chef de la CIA se rendra au Caire ce week-end pour des discussions sur une trêve et la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza, territoire assiégé et bombardé par Israël depuis près de 6 mois, ont rapporté les médias américains. Ce vendredi, Bill Burns rencontrera donc son homologue israélien, le chef du Mossad, David Barnea, ainsi que des responsables égyptiens et qataris, a rapporté le New York Times. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a jugé aujourd'hui inéluctable la riposte de l'Iran à la frappe attribuée à Israël contre le consulat iranien à Damas, qui a fait 16 morts. 7 militaires iraniens, dont 2 hauts gradés, ont été tués dans la frappe sur le consulat iranien lundi à Damas. L'Iran a immédiatement accusé Israël qu'il n'a pas confirmé sa responsabilité. Et puis les États-Unis et la Chine se sont entretenus cette semaine sur la sécurité entre leurs 2 armées. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, a annoncé l'armée américaine. Des représentants militaires américains et chinois se sont rencontrés mercredi et jeudi pour une réunion de travail à Hawaï, une première depuis 2021. La reprise des discussions intervient après que le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu en novembre d'apaiser les tensions et de rétablir les communications militaires entre les 2 pays.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Alexandrine Ollognon.
Le Zimbabwe vient d'adopter une nouvelle monnaie baptisée ZiG et remplaçant l'actuel dollar zimbabwéen pour tenter de lutter contre l'hyperinflation et stabiliser l'économie du pays. Cette mesure vise à favoriser la simplicité, la confiance et la prévisibilité financière du Zimbabwe, selon le gouverneur de la Banque centrale. Les Zimbabwéens disposent de 21 jours pour échanger leur ancien billet. L'indice des prix de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui suit les produits alimentaires les plus échangés dans le monde, s'est établi en moyenne à 118,3 points en mars, contre 117 points le mois précédent. Cela grâce à l'augmentation des prix des huiles végétales, de la viande et des produits laitiers. Les prix internationaux des denrées alimentaires ont fortement chuté depuis le pic record atteint en mars 2022, au début de l'invasion russe de l'Ukraine. La Banque mondiale et l'Éthiopie ont signé des accords de prêt pour un montant total de 1,72 milliard de dollars afin d'améliorer l'approvisionnement en eau et en électricité et de faciliter l'acheminement des denrées alimentaires vers les marchés. Selon le communiqué du ministère, ce projet permettra de renforcer le réseau électrique du pays et de stimuler la production d'énergie renouvelable.
Je passe maintenant au soir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Ce vendredi se jouent les matchs aller du dernier tour qualificatif des Jeux Olympiques 2024, foot féminin, zone Afrique.
Oui, la Zambie et le Maroc s'affrontent au stade Lévi-Mwanawas à Ndola. Les Zambiennes rêvent de leurs deuxièmes Jeux Olympiques consécutifs, elles qui ont récemment battu les Marocaines en amical à deux reprises, 2-0 et 6-2. Les Lions de l'Atlas, elles, sont à la recherche d'une première qualification pour les JO. Dans l'autre match aller, gros choc à Pretoria entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, champion d'Afrique en titre.
Toujours ce soir se disputent les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions CAF.
Les Young Africans de la Tanzanie font face aux Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. En conférence de presse d'avant-match, Matlatsi Makudubela, milieu offensif tanzanien, dit s'attendre à un match plus ouvert que la rencontre aller, qui s'est soldé par un 0-0 à Dar es Salaam. Toujours ce soir, l'autre équipe tanzanienne, Simba, va essayer de renverser la vapeur. Après sa défaite à l'aller 1-0 au Caire devant le champion en titre Al Ahly, les deux autres quarts de finale vont se disputer demain samedi entre Petro de Luanda et le tout-puissant Mazembe d'une part, et l'ASEC Mimosa et l'Espérance de Tunis d'autre part. Ces dernières équipes s'étaient séparées 0-0 aux différents matchs aller.
Athlétisme, Eliud Kipchoge fera partie d'une équipe kényane réduite pour le marathon aux prochains Jeux Olympiques.
Le double médaillé d'or olympique en titre en marathon sera le fer de lance d'une délégation du Kenya réduite dépêchée aux Jeux Olympiques 2024. Par rapport aux 20 athlètes dont les noms avaient été initialement annoncés en décembre, seulement 6 de la dizaine de coureurs de fond hommes et femmes feront le déplacement à Paris. Eliud Kipchoge, 39 ans, fait partie de la liste tout comme le double vainqueur du marathon de Boston, Benson Kipruto. Kipchoge vise une troisième médaille d'or olympique après celle gagnée à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Chez les femmes, Peres Chepchechir, médaille d'or à Tokyo et la médaille d'argent Brigitte Kosgei feront partie de la délégation, avec la gagnante des récents marathons de Boston et Chicago, Hélène Obiri.
Basketball pour finir avec les nouvelles de la NBA.
Avec son succès contre le Heat 109-105, juste devant au classement à l'Est, Philadelphie revient à une victoire d'Indiana 6e et donc potentiellement directement qualifiée pour les playoffs. Le Camerounais Joel Embiid, revenu récemment de blessure, a compilé 29 points. 5e à l'Est, les Knicks se sont eux aussi imposés contre Sacramento 120-109. New York met ici fin à une série de 3 défaites consécutives. À l'Ouest, les Warriors ont enchaîné une 6e victoire de rang en s'imposant 133-110 à Houston. De leur côté, les Los Angeles Clippers se sont imposés 102-100 devant le champion en titre Denver. Les Clippers restent 4e à l'Ouest. Dallas l'a emporté 109-95 devant Atlanta.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, des agriculteurs donnent aux déchets agricoles une seconde vie en les transformant en sources d'énergie et d'engrais, notamment à Dzopé, à 100 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où grâce à une initiative privée, les déchets agricoles sont désormais réutilisés pour produire de l'énergie et des biofertilisants. Un reportage de Yacine Sio.
Sur sa parcelle, Didier Acré cultive du manioc, de la banane, de l'arachide et du maïs. Mais ce planteur est aussi éleveur. Il possède une dizaine de porcs qu'il vend régulièrement sur des marchés à Abidjan. Tous les matins, c'est la même routine. Monsieur Acré nettoie les porcheries et collecte les déchets.
Bon, généralement, ça posait toujours des problèmes parce que ces déchets-là, on était obligé d'aller les déverser soit en bordure des voies ou bien les déverser comme ça. En tout cas, ça perturbait et ça créait plein de problèmes parce que les villageois se plaignaient que c'était la saleté et que vraiment, et Dieu merci, je crois que depuis que le biodigesteur est arrivé, c'est vraiment, vraiment, vraiment une aubaine pour nous. Aujourd'hui, tout ce qu'on jetait et que ça nous créait encore des problèmes, aujourd'hui, tout ça là est utilisé pour le gaz. Donc, en un mot, vraiment, nous en sommes fiers.
Le biodigesteur. Cette machine à l'allure imposante fait le bonheur de M. Acré. Il déverse chaque jour tous ses déchets agricoles.
Bien avant, c'était encore plus difficile. Déjà même pour acquérir le gaz et tout ça, on n'avait même pas su qu'avec tous ces déchets, tous ces excréments de porc et tout ça, aujourd'hui, on pouvait avoir non seulement du gaz, mais à travers le gaz encore, avoir encore l'engrais solide et liquide en même temps. Donc vraiment, ça, c'est une aubaine pour nous.
Ici, rien ne se perd, tout se transforme. À l'origine de cet équipement, l'ONO, une start-up ivoirienne. Stéphane Yao en est le directeur technique adjoint.
On a des équipements clés en main qui sont préfabriqués localement à partir des matériaux trouvés sur place pour faciliter la valorisation des biodéchets en biofertilisant. Il parle de compost solide, compost liquide, biochar, biogaz, et ainsi de suite. Donc ces équipements-là sont nommés Cubeco, et c'est deux modèles de ces équipements qu'on voit derrière. Le premier, en vert, ça c'est l'équipement qui permet de transformer tout ce qui est déchets solides en compost solide. Et le deuxième, le biodigesteur Cubeco, qui lui permet de valoriser tout ce qui est déchets organiques en bio-engrais liquide, mais aussi en biogaz. Il permet de déjà traiter 500 à 800 kilos. Les déchets par jour. S'il est bien exploité, on a pratiquement les mêmes quantités de biofertilisants qu'on récupère chaque jour. Et le biogaz qui est produit peut permettre à 10 à 15 ménages de cuisiner chaque jour.
Pour cet ingénieur, ne rien faire des déchets revient à jeter de l'argent par la fenêtre. Il faut au contraire créer un cercle vertueux autour du déchet agricole.
Déjà valoriser le cortex de cacao, sensibiliser les populations au tri des déchets, à la valorisation de tout ce qui est matière organique, qui était pour l'instant non valorisé, produit du compost solide et du compost liquide qui peut retourner vers les parcelles de cacao qui vont permettre d'augmenter les rendements de production. Les producteurs eux-mêmes, puisqu'ils sont dans ce village-là.
Dans ce pays agricole, le potentiel est énorme. Chaque année, entre 15 et 17 millions de tonnes de déchets agricoles sont produits. Transformés en électricité biomasse, cela correspondrait à 1000 MW, soit environ la moitié de la production énergétique actuelle. Yacine Sio pour VOA Afrique, à Dzopé.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Plus de 1000 jeunes venus de 130 pays se sont donné rendez-vous à Cotonou au Bénin pour des assises dénommées Dialogue mondial des jeunes. C'est dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement. Les jeunes du monde ont décidé de prendre leur destin en main pour atteindre les objectifs en matière de population et de développement. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Au Bénin, plus de 130 pays du monde ont mobilisé leurs jeunes sur le dialogue national de la jeunesse organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en partenariat avec le gouvernement béninois, le Royaume des Pays-Bas et du Danemark. Alastair Alissator, directeur du cabinet du ministre d'État chargé du développement, lève ici un coin de voile sur les attentes de la rencontre de Cotonou.
Lorsque nous parlons de population, aujourd'hui, l'Afrique est singulière en matière justement sentiment de composition de la population où les jeunes représentent près de 2/3 de la population du continent. Et à l'échelle mondiale, les jeunes ne sont pas moins du 2/5 de la population mondiale. Donc il s'agit à Cotonou de faire le point des avancées en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des jeunes, le niveau de préparation des jeunes afin effectivement que la population reflète le niveau de vie attendu par la communauté internationale de l'adoption de la CIPD.
Mais pourquoi Cotonou et pas une autre ville? Boris Montier-Mokour, représentant résident de l'UNFPA, le Bénin a fait des normes avancées en matière de protection des droits des jeunes et des femmes.
Le choix du Bénin ne se posait pas du tout. Le Fonds des Nations Unies pour la population, avec l'appui du Royaume des Pays-Bas, le Royaume du Danemark, ont décidé d'approcher le Bénin compte tenu des progrès réalisés par le Bénin, mais compte tenu de l'importance de la question des jeunes, non seulement au Bénin, et sur le continent africain, pour accueillir cette conférence. Le dialogue qui nous réunit ici est le premier d'une série de dialogues, parce que la jeunesse doit donner le temps. Les éléments du dialogue de Cotonou seront les bases des autres dialogues.
La représentante des 300 jeunes béninois venus à ce dialogue pose les bases des enjeux qui s'imposent à la jeunesse. Gracia Dancy est la représentante des jeunes béninois au dialogue de la jeunesse.
Nous avons constaté que de plus en plus, les jeunes représentent aujourd'hui la plus grande masse du monde. Et nous ne pouvons pas vraiment évoluer ou parler de développement d'une nation sans les jeunes. Mais à présent, on les invite à la table, on les invite à discuter des problèmes qui minent le pays.
Différents panels, dont une discussion à bâton rompu avec le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Diotiané, ont meublé la rencontre. Quelques jeunes donnent ici leurs appréciations.
Je pense que tout ce que le ministre a dit, ce sont des idées, des appels à conscience, des lumières qu'il a portées pour nous sur les dispositions ou les pas que le gouvernement pose. Et je pense que c'est salvateur.
Le Bénin a quand même eu beaucoup d'avancées sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan sanitaire, éducation, sur le plan du numérique et sur beaucoup d'autres plans. Nous sommes vraiment satisfaits.
Tous les jeunes ne sont pas du même avis. Certains pensent qu'il faut que le gouvernement réfléchisse à comment permettre aux jeunes de s'écarter du chemin du terrorisme et de l'extrémisme violent.
Je crois qu'il va y aborder certaines questions, surtout les questions qui menacent l'accès à l'éducation. Moi, j'aurais souhaité personnellement qu'on intègre la question de sécurité. Quelles sont les dispositions que l'État ou la société civile prend pour faire face au déséquilibre entre les diplômés et les employés?
Dans le cadre de cette rencontre, la directrice exécutive de l'UNFPA, Dr Nathalie Akanem, s'est dit prête à écouter les jeunes et leurs aspirations. Elle a notifié lors de son audience avec le président Patrice Talon, appelant les jeunes à jouer pleinement leur rôle pour le développement. De Cotonou, Ginette Cléadandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les mosquées de New York s'efforcent d'héberger et de nourrir les migrants pendant le mois sacré du Ramadan. Un imam sénégalais du quartier du Bronx a transformé sa mosquée située dans sa maison en un abri de fortune. Les détails avec Ginny Niwa.
Certaines institutions islamiques de New York s'efforcent de répondre aux besoins de la population migrante qui ne cesse de croître. Nombre d'entre elles ouvrent leurs portes aux migrants pendant la journée où ils peuvent trouver un endroit calme pour se reposer et récupérer souvent après une nuit agitée, passer à dormir dans la rue ou dans le métro. L'imam Omar Nias dirige la mosquée Jamiatou Ansaruddin dans le Bronx.
Dans notre culture, on ne peut pas refuser aux gens de venir à la vieille mosquée, peu importe que l'on soit musulman, chrétien, juif ou autre. On ne peut refuser à personne de venir.
Certaines communautés religieuses ont du mal à se maintenir à flot. L'imam Nias estime avoir un retard d'environ 7 000 $ sur ses factures d'électricité et 11 000 $ sur le service d'eau.
J'ai une petite bodega à ouvrir pour assurer ma survie, celle de mes enfants et de ma femme. C'est ce que j'ai commencé aux États-Unis d'Amérique.
Les centres religieux sont souvent la première étape des migrants lorsqu'ils arrivent dans la ville. Les autorités municipales peinent à étendre les programmes d'aide à la location aux migrants et convertir davantage de propriétés publiques vacantes en logements ou abris temporaires.
Ils viennent de plus en plus parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. S'ils viennent, ils restent à la mosquée. Nous faisons ce que nous pouvons pour les nourrir et les aider.
Allahu Akbar.
Plusieurs institutions religieuses sont situées dans des bâtiments anciens qui ne répondent pas aux normes de sécurité, qui exigent des systèmes d'extinction automatique et d'autres mesures. En début d'année, la mairie de New York a réduit le nombre maximum de lits autorisés dans les refuges de 19 à 15, ce qui signifie qu'ils ne seraient pas tenus d'avoir des systèmes d'extinction automatique selon les codes de construction de la ville.
Joe Biden et Donald Trump ont remporté les primaires présidentielles de leurs partis respectifs dans l'État du Wisconsin, dans le Midwest, cette semaine. Une fois leur nomination obtenue, les candidats se battent pour remporter l'élection générale dans le Wisconsin, l'un des États clés qui pourrait décider de l'issue de la présidentielle de 2024. Scott Stearns, correspondant de la VOA, rapporte que les équipes de campagne s'efforcent de gagner le soutien des électeurs noirs du Wisconsin. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Les électeurs du Wisconsin ont choisi Donald Trump en 2016, mais Joe Biden 4 ans plus tard. Et les résultats ont été serrés les deux fois. Cet État pourrait donc basculer d'un côté ou de l'autre dans cette élection, avec un électorat presque également divisé qui déjoue la plupart des sondages d'opinion. Dans cette course serrée, les deux camps tentent de gagner du terrain auprès des nouveaux électeurs. Pour les républicains, cela signifie essayer de réduire l'avantage historique des démocrates auprès des électeurs noirs. Orlando Owens est le premier président africain-américain du Parti républicain dans le comté de Milwaukee.
Qui soutient l'éducation de votre enfant en ce moment? Qui soutient les entreprises noires? Qui soutient l'idée d'une frontière sécurisée? Qui soutient l'idée que vous avez le droit d'utiliser une arme à feu, que vous pouvez vous défendre?
Il y a 4 ans, M. Biden a remporté le Wisconsin avec moins de 21 000 voix, mais a gagné Milwaukee avec plus de 145 000 voix. Selon une analyse de l'université Marquette, 53% des votes remportés par M. Biden provenaient de quartiers à majorité noire. De nouveau, Orlando Owens, président du Parti républicain du comté de Milwaukee.
Milwaukee n'a pas besoin de devenir républicain. Nous avons juste besoin d'un regain d'activité. Si nous parvenons à obtenir un petit sursaut dans la ville, un petit sursaut dans le comté, nous gagnons l'État. Si nous gagnons l'État, nous gagnons au niveau national.
M. Trump a déclaré à ses partisans que ses multiples inculpations pénales l'ont aidé à attirer les électeurs noirs.
Beaucoup de gens m'ont dit que c'est pour cela que les Noirs m'aiment bien, parce qu'ils avaient tellement été blessés et discriminés qu'ils me voyaient comme si j'étais victime de discrimination. C'est assez étonnant.
M. Biden ne peut se permettre de perdre le vote noir dans le Wisconsin, et sa campagne le sait, affirme Cathy Cohen, professeure de sciences politiques à l'Université de Chicago.
La plupart des personnes qui suivent les élections diraient que sans Milwaukee, Biden perd facilement le Wisconsin. Je pense que la campagne de Biden l'a compris. Je pense que nous assisterons à un investissement important dans les publicités, les campagnes de mobilisation du vote, les messages et les visites.
Biden s'est rendu dans le Wisconsin le mois dernier pour annoncer un nouveau financement destiné à réparer ce qu'il a appelé des erreurs historiques.
Pendant des générations, les communautés noires, brunes, amérindiennes, asiatiques et hawaïennes n'ont pas été pleinement intégrées à notre démocratie et à notre économie.
Pour Milwaukee, cela signifie de nouveaux trottoirs et de nouvelles pistes cyclables, ainsi que des voies de bus et des infrastructures modernes.
Il s'agit d'améliorations qui changent la vie. Elles permettront aussi aux communautés historiquement noires du Nord et aux communautés latino du Sud d'accéder plus facilement aux emplois, aux écoles et aux divertissements de la ville et du centre.
Antonio Perkins, coiffeur dans le Wisconsin, dit qu'il n'a pas encore pris sa décision.
Je suis indécis, c'est amusant. J'ai voté pour Biden pour écarter Trump du pouvoir lors de la dernière élection. Et maintenant, je penche davantage pour Trump parce que les situations dont nous espérions l'amélioration ont en fait empiré. Alors oui, je ne sais vraiment pas de quel côté y pencher pour l'instant.
Cette incertitude parmi les électeurs traditionnellement démocrates fait que la course déjà serrée dans le Wisconsin sera au centre des préoccupations des deux équipes de campagne jusqu'au jour de l'élection.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.